Merci, Monsieur le Président. Merci, Olivier. Oui, donc, les institutions aux yeux des citoyens, c'est un titre qui mérite d'être un peu précisé. C'est en fait, comment les citoyens regardent-ils ou voient-ils les institutions et en fait, là, j'emploie pas le verbe regarder ou voir dans un sens métaphorique, au sens de comment les considèrent-ils, mais au sens propre, c'est-à-dire comment ils les voient au sens oculaire, sur le plan de la vision, avec les yeux, en fait. Et la question aussi, c'est comment les institutions se rendent-elles visibles? Donc on va parler de drapeaux, d'emblèmes, d'enseignes, de plaques indicatives, de logos, de costumes et encore d'uniformes. Alors, quelques précisions. Les institutions ne se font pas remarquer que par le sens de la vie, la vue. Hein, elles peuvent aussi se faire remarquer par le sens de l'ouïe, à travers des chants identifiés, en particulier des hymnes nationaux. Mais ça peut être aussi par des signatures. Des signatures sonores, comme quand vous allez dans une gare, vous entendez des choses. Voilà. Et en cherchant bien, on pourrait voir d'autres sens qui pourraient être sollicités pour manifester les institutions. Je pense à des confréries bachiques, voilà, qui sont un peu folkloriques dans les pays de production de vin ou avec, vous savez, des espèces de robes un peu néo-gothiques, voilà, tout ça, et des compagnies, enfin des confréries gastronomiques, mais là, on peut solliciter les papilles gustatives, l'odorat, voilà. Bon, ça, on s'en fout. Deuxième précision, je vais m'intéresser aux signes dans leur dimension externe, c'est-à-dire ce qu'elles donnent à voir à l'extérieur, leur identité visuelle à l'égard des citoyens. Ce sont des signes qui, en général, sont plutôt destinés à être regardés, à avoir une signification en interne, c'est-à-dire pour les membres qui savent lire sur un uniforme un nombre de galons, qui savent lire sur un certain nombre d'emblèmes des significations. Et en général, ces signes n'ont qu'accessoirement vocation à être vu à l'extérieur. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a toute une grammaire de ces signes pour les membres de l'association qui savent lire le rôle de chacun à l'intérieur du groupe. Donc ça peut être la fonction qu'il occupe, ça peut être également une origine géographique, on utilise pas mal des signes régionaux. Voilà. Troisième précision, partons de l'idée que le territoire est découpé en trois, en tout cas pour les juristes. Il y a d'abord la sphère privée, hein, qui est une sphère protégée du regard d'autrui par des murs, par des volets, par des rideaux, par des haies. Là, on n'a pas lieu de s'en occuper, mais il y a aussi les lieux qui précisément, eux, relèvent des institutions. Que ce soit des lieux ouverts au public ou des lieux qui ne sont pas ouverts au public. Ceux qui sont ouverts au public, ce qu'on appelle souvent, par exemple, des institutions guichets, comme un service d'une mairie ou d'une préfecture. Et puis il y a des lieux qui ne sont pas du tout ouverts au public, comme un camp d'entraînement militaire, etc. On peut prendre l'exemple d'un lieu de culte, hein, qui est en France, mais ce n'est pas vrai dans tous les pays, mais qui est ouvert au public. Là, on a affaire à un organisme privé, mais le lieu de résidence du desservant, hein, qu'on appelait jadis un presbytère, qu'on peut appeler encore un presbytère, lui n'est pas ouvert au public. Et donc, dans ces lieux, l'institution va se rendre visible, elle va s'identifier visuellement en adressant un message aux citoyens qui évoluent dans l'espace public. Puis il y a enfin cet espace public, hein, qui est composé de ce qu'on appelle le réseau viaire, hein, les places, les rues, les squares, et les lieux ouverts au public, comme une salle de spectacle, un stade ou une administration guichet. Donc dans cet espace, les institutions se donnent à voir, non seulement par des signes sur des murs, au sommet des mâts, mais elles se montrent aussi par des tenues, par des costumes, par des uniformes. C'est l'avocat en robe, le policier en uniforme, ou le membre d'une confrérie chic. Donc on va s'intéresser aux lisières, aux bordures de cet espace public, aux confins, confrontés à l'institution. Pour le dire autrement, les messages visuels reçus par les citoyens sont-ils clairs, sont-ils non équivoques, sont-ils légitimes? Et la question aussi qui va être immédiatement importante, c'est les institutions se trouvent-elles en concurrence les unes avec les autres dans leur capacité à adresser des messages? Et on va voir très vite que la grande question qui nous occupe pour un juriste, c'est: l'État est-il une institution d'une nature telle, d'une singularité telle, que son message visuel ne doit être pollué par rien du tout? Donc on va étudier essentiellement la législation concernant les drapeaux, pour les emblèmes qui identifient des bâtiments institutionnels, et on va étudier la question aussi du point de vue des costumes qui identifient donc les membres de ces institutions, et pour un temps donné dans la journée, étant donné que rares sont ceux qui dorment en uniforme dans l'espace, enfin quand ils rentrent chez eux. Quatrième précision préalable, qui aurait pu être la première: en quoi l'étude de ces signes fait-elle avancer la réflexion sur les institutions? Et à partir d'un point de vue peut-être un peu intuitif, on peut noter que le signe et l'institution ont en commun de traduire simultanément un processus et un résultat. On remarque une forme d'intimité de la relation entre l'institution et son signe distinctif visuel. L'institution a toujours besoin de se montrer pour être vivante, ce qui fait d'elle un être jugé vivant, mais aussi jugé mortel par ses membres. Et si on faisait un parallèle avec le processus juridique de création des institutions, l'apparence visuelle de l'institution relève davantage de la logique coutumière que de la logique volontariste. Le signe fait vivre l'institution par la pratique, par l'usage, comme le précédent fait vivre la coutume. Il ne suffit pas à l'institution d'avoir été créée par un acte constituant. Il lui faut montrer des signes de vie. Et ce processus se voit encore mieux quand on s'intéresse un tant soit peu à la disparition des institutions. Sans membres qui arborent un costume, sans drapeau, sans emblème, l'institution devient une coquille vide, une coquille morte. Aucun acte ne vient attester son décès, mais sa simple désuétude, qui est le contraire de la consuétude, qui a donné consuetudo, la coutume, la désuétude, la non-pratique, traduit sans équivoque qu'elle n'est plus. Et dans ces conditions, comment les signes des institutions s'insèrent-ils dans un système de droit qui est le système contemporain français, qui est un système essentiellement volontariste, essentiellement écrit? Le droit des modernes, on va le voir tout de suite, éprouve un certain malaise pour s'approprier le phénomène institutionnel en tant que l'institution est quelque chose de vivant. Et on l'observe particulièrement en droit interne avec le rapport complexe et la construction complexe du droit des associations, dont on parlait il y a encore très peu à propos des mécanismes de subvention. Mais il y a une autre raison qui vient nourrir la difficulté du droit moderne à penser à insérer les signes visuels, qui est liée cette fois au fait que ces signes, la plupart du temps, sont des symboles dont la raison d'être est de figurer, de représenter un être ou une idée. En caricaturant l'opposition, on pourrait dire que ce qui donne crédit au symbole, ceux-là qui attachent du crédit en symbole vont considérer le symbole comme consubstantiel, au sens fort du terme, à l'institution, donc que leur existence et que leur étude, l'apparition, l'évolution, la disparition, disent la vérité de l'institution. Et on aura reconnu pour les juristes, il y en a bien d'autres, mais évidemment un courant d'origine allemande, l'école historique, qui voit dans le symbole une sorte d'essence concrète, sensorielle, irrationnelle, populaire et véritablement nationale, dans le contexte du nationalisme allemand, des institutions. À l'opposé, on trouve une tradition marquée par les Lumières, attachée à la rationalité, à l'abstraction, à la performativité des textes, à un certain rejet de l'histoire et qui voit dans les symboles de vagues et aimables folklore qui ne disent aucune vérité car le symbole, le signe ne prouve rien, il dit simplement vaguement du folklore, des usages à un moment donné résultant d'une pratique ponctuelle issue de l'imagination de tel ou tel, mais rien qui doive intéresser un juriste sérieux. Donc on reconnaîtra ici évidemment une tradition plus française, issue de la Révolution. Et cette tradition juridique française abandonne bien volontiers l'étude des symboles aux anthropologues, aux antiquaires, aux médiévistes, pour se concentrer sur les choses vraiment sérieuses pour les juristes, le droit écrit et son interprétation. Alors, qu'ils le veuillent ou non, les Français, comme on le verra, les symboles ne laissent pas les législateurs et les juges tout à fait indifférents. On va même les voir faire de symboles négatifs des composantes du désordre public, ou plutôt de leur déploiement, hein, le déploiement d'un mauvais drapeau, quelque chose comme ça, des menaces largement immatérielles à l'ordre public. Alors, maintenant qu'on a posé un petit peu le cadre, on peut en venir à la manière dont le droit s'empare de ces signes visuels. Et la première remarque, c'est que quant à l'obligation institutionnelle de se rendre visible, eh bien, les règles juridiques sont à la fois très peu nombreuses et de rang extrêmement subalterne. Vous n'avez pas de loi, vous n'avez pas de décret général, vous avez de simples arrêtés qui donnent des instructions à des préfets. Quand on va pavoiser, par exemple, toutes les mairies de France pour une commémoration particulière, eh bien, ce sont des préfets qui adressent des instructions. Et pour le reste du temps, c'est-à-dire les autres jours de l'année où il n'y a pas une commémoration particulière, pourquoi met-on un drapeau français au sommet de la mairie? Eh bien, parce que ça se fait. Mais il n'y a aucune règle écrite sur ce terrain-là. Ce qui est d'ailleurs traduit évidemment une très grande vitalité de l'institution, c'est que ça marche. Hein. Si on n'en parle pas, c'est que ça marche. De même, il n'y a pas d'obligation de revêtir l'uniforme pour les militaires entre leur domicile et leur lieu de travail ou leur casernement. C'est libre. Alors, vous avez des instructions depuis 2013 et l'affaire de Montauban. C'est même une instruction contraire qui est donnée, non par antimilitarisme évidemment, mais pour éviter que des soldats et des officiers ne soient pris pour cible. Hein, donc, on leur demande d'aller en civil sur leur lieu de travail. Donc, des règles peu nombreuses, peu élevées dans la hiérarchie des normes, et le droit va s'intéresser à cette question-là de manière inverse, pour protéger l'institution contre des signes négatifs. Et on va voir comment l'institution, en particulier l'État, va protéger l'exclusivité de son image et puis l'intégrité de son image. Alors, s'agissant de l'exclusivité, on va voir ici comment le signe de l'institution étatique qui porte par elle-même un message, qui lui donne une signification particulière, va s'assurer que cette image n'est pas récupérée par d'autres qu'elle-même. On va prendre des exemples tels que l'interdiction d'ajouter quoi que ce soit à un drapeau tricolore. Notamment, par exemple, il est interdit d'ajouter dans le blanc du drapeau tricolore un bonnet phrygien ou une croix que surmonterait un cœur qui a une connotation que vous aurez identifiée, qui est un tout petit peu différente. Dans ces deux cas, hein, lorsqu'on arbore un drapeau de cette nature, on doit constater qu'il n'y a absolument aucun désordre public matériel. Il n'y a pas de menace pour l'ordre public matériel. Le drapeau flotte paisiblement. L'usurpateur de costumes publics eh bien, n'utilise pas son accoutrement pour obtenir des faveurs ou pour poser des actes pour lesquels il n'aurait aucune compétence. Et pour autant, dans l'ordre symbolique, l'institution se sent blessée comme atteinte dans son être. Et une institution blessée, atteinte dans son être, voilà une argumentation qui est totalement irrecevable dans le monde rationnel des juristes issus de la Révolution française. Alors il faut avoir recours à la notion de risque pour l'ordre public, quand bien même aucune violence immédiate ne serait à craindre. Alors quelques exemples concrets, parce qu'il faut essayer de faire vivre cette affaire-là. En 1893, on est dans une situation intéressante. Le richissime Casimir Perier est au pouvoir, les socialistes progressent, et certains maires socialistes, en particulier dans le Tarn, pour des raisons que vous connaissez, vont faire hisser sur leur mairie des drapeaux rouges. 1893, c'est aussi la période au cours de laquelle Ravachol, Vaillant, Henri, Casirio réalisent les exploits que vous savez au nom de la propagande par le fait anarchiste. Et donc le gouvernement donne l'ordre au préfet d'interdire les emblèmes révolutionnaires. Alors, on ne dit pas révolutionnaire comme ça, on ne va pas identifier son ennemi. Et donc, on a des arrêtés préfectoraux qui ont des formules larges, l'interdiction de l'exposition et du port de drapeaux sur la voie publique, dans les édifices et emplacements et locaux ouverts au public, à l'exception des drapeaux des couleurs nationales, françaises ou étrangères, et ceux servant d'insigne aux sociétés autorisées et approuvées. Voilà le texte en fait, tous les arrêtés préfectoraux ont un même modèle. Alors, ces arrêtés, paradoxalement, vont faire une jurisprudence intéressante, non pas à l'égard des drapeaux rouges, mais des drapeaux français qui vont introduire en leur milieu un Sacré-Cœur, emblème du national-catholicisme, en vogue depuis les années 70, et l'édification de la basilique du Sacré-Cœur à Paris. Alors, on a un arrêt de la Cour de cassation, qui considère qu'un drapeau tricolore avec un Sacré-Cœur est susceptible d'être interdit parce que ça n'est pas un drapeau national et cette idée de Sacré-Cœur ne renvoie pas à une société autorisée ou approuvée. Alors les défenseurs disent, mais attendez quand même, il y a une loi en 1873 qui a été votée pour que soit édifié le Sacré-Cœur, donc ça, c'est quand même une autorisation du législateur. Non, ça n'est pas une société autorisée. L'argument du procureur, si le drapeau avait comporté la truelle et le tablier de peau des francs-maçons au milieu des trois couleurs, eh bien la personne qui se reconnaît dans le drapeau avec une croix qui surmonte un cœur ne serait pas reconnue dans le tablier et la truelle. Oui. Malgré l'absence de troubles à l'ordre public matériel, là, le symbole républicain est pris d'assaut, subverti par la droite catholique qui, pour une part importante, à ce moment-là, avait renoncé au drapeau blanc. Merci. Ce qui est intéressant, c'est que personne ne porte le débat sur le terrain du symbole et de la dimension vivante de l'institution. Nul n'ignore évidemment que cette image, cet emblème vient subvertir non seulement l'institution, mais l'institution étatique républicaine. Évidemment, c'est de ça qu'il s'agit. Nouveaux arrêtés intéressants pendant la Première Guerre mondiale qui interdisent, alors je cite, l'apposition sur le drapeau de la France ou sur un insigne aux couleurs nationales d'un emblème quelconque qui porte atteinte à son caractère national. Donc n'étaient autorisés que les drapeaux aux couleurs nationales sans addition d'aucun emblème et les drapeaux des nations alliées ou neutres sur la voie publique et dans les édifices et emplacements librement ouverts au public. On est aussi en 1917 sous le régime de la loi de 49, la loi sur l'état de siège qui n'est pas concernée directement, mais c'est pour vous dire qu'on est dans une ambiance de souci des libertés qui est, disons, sans excès. Et le 10 août 1917, le Conseil d'État rend 11 arrêts dans des affaires qui ont été liées les unes aux autres. Et le Conseil d'État juge légale la réglementation des drapeaux dans l'espace public, mais illégale la règle qui prohibe les drapeaux avec emblème à l'intérieur des édifices ouverts au public, c'est-à-dire à l'intérieur des commerces et des églises. Et son argument est le suivant, un drapeau avec emblème dans un lieu qui est ouvert au public mais dans lequel il faut entrer, eh bien ça nécessite, ça n'est pas le drapeau qui vient à la vue du citoyen, c'est le citoyen qui sait ce qu'il fait quand il rentre dans une église et s'il voit un Sacré-Cœur, ce n'est pas une énorme nouvelle. Vraisemblablement, il est rentré pour ça, ou quelqu'un qui rentre dans un magasin pour acheter une carte postale avec un drapeau frappé d'un Sacré-Cœur, eh bien là, ce serait une atteinte excessive, d'une part à la liberté d'expression pour l'Église, ou à la liberté du commerce et de l'industrie pour les magasins. En revanche, pour le reste, il estime que l'atteinte au drapeau national est une chose qui est, enfin, l'interdiction de l'atteinte au drapeau national est une chose qui est légale, et son argumentation devrait être fort logiquement en disant on ne touche pas les symboles, voilà. Mais sauf que dans le droit moderne, il n'y a pas de symbole, ça n'existe pas ça chez nous. Et donc il dit que, eh bien, un drapeau qui serait de cette nature, c'est un appel ouvert à une manifestation et donc un risque à l'ordre public. Alors qu'il n'y a aucun risque à l'ordre public matériel, en tout cas, rien de constaté. Et évidemment, le Conseil d'État, dans cet arrêt de 1917, ne demande pas le triple test que nous autres juristes connaissons bien, nécessaire, adapté, proportionné. Vous avez toute une jurisprudence aussi sur les drapeaux de Jeanne d'Arc et sur les drapeaux du pape, jaune et blanc, mais voilà, ce sera pour une version écrite. Mais ce qui est intéressant ici, c'est la distinction, hein, dans le rapport à l'institution. À l'intérieur de chaque institution, si l'on peut dire, eh bien, chaque institution défend ce qu'elle est. C'est le cas de l'Église qui peut, elle, porter un emblème national catholique, mais à l'extérieur, l'institution étatique doit faire prévaloir le plus petit dénominateur commun, qui est le drapeau simple, si l'on peut dire. Reste toujours et encore à discuter cette notion d'ordre public immatériel qui est bien embarrassante. Alors, l'exclusivité, hein, de l'image de l'institution aussi apparaît à propos de certains costumes uniformes, et on va voir ici que le droit n'offre sa protection qu'aux fonctionnaires et qu'à ceux qui participent à l'intérêt général. Alors, rappelons l'état du droit positif, hein, le droit aujourd'hui. On ne parle pas, donc il y a une distinction entre l'usurpation de fonction et l'usurpation de costume. L'usurpation de fonction consiste à s'emparer, eh bien, du costume d'un autre et de produire un acte qui est évidemment incompétemment réalisé. Alors ça c'est sur le plan du droit administratif, mais sur le plan du droit pénal, c'est une sanction. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'usurpation de costume. En fait, dans le code pénal aujourd'hui, c'est l'usurpation de signes, dont fait partie le costume, l'uniforme, la décoration, l'insigne, l'autocollant, même sur des véhicules. Si vous mettez, par exemple, des autocollants police sur votre voiture particulière, c'est pas terrible. Vous allez avoir des difficultés. Même si vous êtes en vacances, sur la plage, en train de vous amuser. Vous n'êtes pas du tout un méchant. Voilà. Mais ça ne se fait pas. Donc on doit comprendre que le petit blagueur qui entend se déguiser en policier, en militaire ou en magistrat, eh bien, fait rire tout le monde, sauf le législateur, quand bien même il n'en tirerait aucun avantage, hein, évidemment. Et les autres, eh bien, ceux qui ne sont pas fonctionnaires et ceux qui ne participent pas à l'intérêt général. Ah oui, j'ai oublié d'ajouter, la loi, le droit positif actuel, hein, protège aussi la robe d'avocat, mais seulement la robe d'avocat pour des raisons que je vous expliquerai tout à l'heure. Mais donc les autres costumes ne sont pas protégés. Donc si vous voulez usurper la robe rouge d'une compagnie bachique de buveurs de vin de Bourgogne, eh bien faites-le, ça les énervera un peu, sans doute beaucoup. Peut-être que vous serez ridicule d'être tout seul comme ça. Enfin voilà. Mais le droit. Et la robe de professeur, elle n'est pas protégée. Elle n'est pas protégée. Non. Alors, là encore quelques exemples. L'ancien article de 259 du Code pénal incriminait, comme le nouveau Code, hein, d'ailleurs, l'usurpation de la robe d'avocat, l'argument qui était retenu, hein, par la doctrine. Et celui-là, qui est une formule non réfléchie, mais je pense que vous allez, les philosophes, vous délecter de ce genre de formule, le costume d'avocat est celui d'une institution consacrée, faisant lui aussi partie de la magistrature. Oui, une institution consacrée c'est magnifique comme formule. Alors nous, on va s'intéresser à une institution qui est très 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 consacrée, qui est l'institution ecclésiastique. Et oui, peut-on se balader en curé ou en moine ou en nonne ou en tout ça? Alors, ce qu'il faut repérer d'abord, c'est que le système d'avant 1905 est très différent du système actuel. Entre donc 1801, enfin plutôt 1802, les articles organiques sous le concordat et 1905, donc dans le système concordataire, seul le costume religieux des cultes reconnus, des ministres de culte reconnus est protégé, et également celui des ordres religieux autorisés, hein, parce qu'on a un régime de reconnaissance et un régime d'autorisation qui sont deux régimes. En revanche, si vous êtes ministre d'un culte non reconnu, par exemple si vous êtes anglican et que vous habitez Dinard, eh bien, et qu'on se moque de votre robe à 33 boutons, votre soutane de voilà, eh bien, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Et par ailleurs, les communautés religieuses non autorisées, qui sont simplement tolérées mais qui n'ont pas d'autorisation légale, ne sont pas protégées. Il y a de la jurisprudence, hein, le costume d'ermite, par exemple, n'est pas protégé, mais ce qui est intéressant, par exemple, c'est que le costume de chartreux n'est pas protégé non plus, parce que ce n'est pas une congrégation autorisée. Et je ne sais pas si vous avez en tête Balzac. Balzac était très très souvent dans une sorte de robe de chambre de travail qui était en réalité un costume de chartreux, et donc vous avez beaucoup d'iconographies où Balzac est représenté dans cette robe de bure qui est imitée d'une robe de chartreux. Alors j'ai pas trouvé de jurisprudence de gens qui attaqueraient Balzac en disant quand même un peu de tenue. Bon, c'était Balzac. La doctrine quand même au XIXe siècle considère, et c'est assez intéressant, que le simple déguisement potache lors d'un carnaval ne rentre pas dans le cadre de ces incriminations. Il faut avoir l'intention coupable, hein, de s'habiller en prêtre ou de s'habiller en moine. Alors, depuis 1905, cette protection particulière a disparu. Pourtant, à plusieurs reprises, un député que les plus âgés d'entre nous auront reconnu, qui est Édouard Frédéric Dupont, il a été connu, il a été très souvent le doyen d'âge de l'Assemblée nationale, parce qu'il est mort en 1995, mais il a commencé à faire des propositions de loi dans les années 30. Eh oui. Et il faisait la proposition suivante, qu'il estimait qu'il était de l'intérêt de l'ordre public que les membres d'une religion ne puissent être provoqués par l'exhibition dans des conditions indignes du costume porté par celui qui a baptisé leurs enfants et administré leurs parents dans leurs derniers instants. Il ne s'agit pas ici de porter atteinte à la neutralité de l'État, dit-il, ni aux lois de séparation. Il s'agit seulement de faire respecter, dans un climat de tolérance et de dignité, les grandes forces spirituelles, en même temps que ceux qui en sont les symboles. Et oui, le symbole qui revient. Alors, évidemment, Édouard Frédéric Dupont n'a pas été suivi, mais son argument montre une forme de résistance et de force vitale des institutions à travers la puissance de ces symboles. Donc, pour terminer sur cette première partie, on voit que les sens, hein, en particulier le sens oculaire, le regard, reçoivent des messages qui ne se font pas entendre, si on peut utiliser le mot entendre, ne se font pas voir par le droit écrit, mais en réalité, le droit écrit fait semblant de ne pas entendre cela, sauf quand il les entend quand même, et il me semble qu'on peut avoir aussi cette lecture-là, de lecture symbolique. Il y en a d'autres, hein, je m'y suis intéressé pas mal il y a quelque temps, une lecture symbolique de ce à quoi renvoie l'interdiction du port du voile intégral. Alors maintenant, protéger l'institution en garantissant l'intégrité de l'image. Alors commençons là encore par le droit. Ouais, je vais être très bref, j'essaie de vous distraire, d'être long en vous distrayant. Mais donc là, c'est la question de... Non, mais c'est très bref. La question de l'outrage au drapeau français. Eh oui, vous connaissez tous ça. Depuis 2010, c'est un funeste France-Algérie au stade Vélodrome de Marseille, où l'hymne national avait été sifflé. Eh bien, il est désormais interdit de faire outrage au drapeau français en le détruisant ou en se comportant vis-à-vis de lui de manière dégradante. Mais quand même, pour que la liberté d'expression artistique, notamment, puisse être préservée, ceci doit se faire dans le cadre d'une manifestation organisée et ou organisée par les autorités publiques. Donc un match de foot national, ça, ça ne marche pas, mais si vous faites ça dans une salle de spectacle, je sais pas, où figure un groupe de rock, là, c'est pas organisé par les autorités publiques. Et c'est... Mais donc là, je voudrais aller sur le terrain de la question des effigies. Ici, il semble ici que le drapeau ici fait figure d'effigie hein, de l'institution nationale. La dégradation du drapeau eh bien, blesse, dégrade, abîme, affaiblit la nation elle-même. Si la nation est quelque chose de vivant, alors l'atteinte à son symbole est un petit coup de poignard, une blessure qui se joue symboliquement, évidemment, qui joue symboliquement la scène de son meurtre. Alors, cette répression n'est pas du tout un problème sine matri creatam. C'est l'ancien code pénal hein, comportait un article 257. Article 257 qui, au départ, était fait pour la protection des monuments artistiques, hein, pour éviter qu'il y ait des dégradations. Et donc, il y avait une incrimination particulière pour la dégradation de monuments, de statues, d'objets destinés à la décoration publique. Mais ce texte, donc en fait, après, il y a eu pas mal de textes qui ont protégé les monuments historiques, et donc le code pénal n'avait pas beaucoup d'utilité. Mais cet article 257 a été utilisé et interprété de manière à protéger les intérêts généraux de la cité, en particulier les symboles, et en particulier au sein des symboles, évidemment, le drapeau. Alors, après 1880, il y a un maire qui avait ordonné de faire pavoiser non seulement l'église, parce qu'après 1880, c'est le 14 juillet est rétabli comme fête nationale. Donc le maire ordonne de faire pavoiser l'église du village, mais également le presbytère. Ouh. Alors là, le curé sort de chez lui et il arrache le drapeau en disant enfin, « voilà, je suis chez moi ». Et donc, il a été accusé d'avoir abattu, mutilé, dégradé des objets destinés à la décoration publique et placés sur le bâtiment, sur l'édifice, sur ordre d'autorité publique. Alors, premier tribunal le relaxe, le presbytère n'est pas un bâtiment public, mais une propriété privée, ce qui est faux. Pas d'intention d'injurier le drapeau, hein, c'était juste une manière de protéger, voilà. Enfin, on peut imaginer que le curé en question n'était pas ultra-républicain. Et l'idée aussi était que le drapeau est une décoration ponctuelle et non pas une décoration au sens de l'article 257. Alors tous ces arguments ont été balayés par la Cour de cassation qui considère que le presbytère est bien un bâtiment communal, que l'intentionnalité d'injurier le drapeau n'est pas une condition suffisante ni nécessaire pour la commission du délit, et puis que la loi protège toutes les décorations publiques, y compris le drapeau. Et la Cour de cassation dit ceci, attendu qu'il est inadmissible que le drapeau national puisse être exclu de la protection générale dont sont entourés les autres objets de la décoration publique. Alors, dernier cas, et c'est avec ça que je vais conclure, parce que c'est un cas qui me semble assez intéressant sur l'ambivalence entre l'institution, le symbole et la puissance d'une normativité incompréhensible par les modernes et la normativité des modernes, hein, pour le dire comme ça. Le maire de Saint-Justin dans les Landes, tout le monde connaît Saint-Justin dans les Landes, a lacéré un drapeau français qui comportait, dans la partie blanche du drapeau, un bonnet phrygien. C'était à l'occasion d'une course de taureaux. Les Landais aiment la course de taureaux. Et il est révoqué par le préfet, le maire. Et donc on en arrive à cette situation paradoxale qui veut qu'il soit interdit d'ajouter publiquement des emblèmes au drapeau tricolore dans l'espace public, mais il est interdit à un maire de le détruire s'il en comporte. Voilà, ce qui, évidemment, ce qui est injonction paradoxale, peut-être. Et le maire dit qu'il a arraché le drapeau pour la défense de l'ordre public. Il a estimé qu'un drapeau français avec un bonnet phrygien était un emblème séditieux. Évidemment, c'est un appel à la révolution. Alors, il faut dire que le maire est un ancien général de l'armée française, grand officier de la Légion d'honneur, un nom avec 32 particules, et au moment où il a arraché le drapeau, il a crié « Vive la France !», ce qui était chouette, très bien. Et les gens qui étaient un peu des rouges quand même, les Landais, répliquent « Vive la République !» Oui, ce qui est très beau aussi, enfin là on est tous en vibre. Et là, sortie de route du maire, erreur immense, il leur répond « Vous n'êtes que des communards !» Oh, et oui, et oui. Et alors là, le sous-secrétaire d'État à l'intérieur estime que c'est le maire lui-même qui a provoqué le trouble à l'ordre public et non ses opposants. Alors le cas est intéressant parce que dans cette affaire, l'ordre public est du côté de ceux qui ont ajouté un emblème sur le drapeau, et celui qui défend le drapeau pur, si l'on peut dire, apparaît comme le fauteur de désordre. Évidemment, toute la question est ici de savoir qu'est-ce qui est de nature à porter le plus gravement atteinte à l'institution. Est-ce l'altération de ces symboles ou est-ce le désordre interne, hein, est-ce la dissension interne? Donc, pour parvenir à faire prévaloir l'ordre, eh bien, l'institution en vient donc à tolérer comme un moindre mal l'altération de ces symboles visuels. Voilà, donc pour conclure d'un mot, il me semble qu'après cette analyse qui était un peu rapide, mais il me semble que la pression performative, si j'ose dire, des symboles, signe tangible de la vie des institutions, eh bien, ces symboles ont un niveau de pénétration relativement faible dans le droit moderne, qui se veut, encore une fois, un droit rationnel, textuel et abstrait. Et ces symboles ne sont dans les textes extrêmement peu pris en considération par eux-mêmes. Et le mot symbole n'apparaît pas ni dans la législation, ni dans les règlements. Et on préfère des textes généraux, des textes écrits et un ordre public matériel. Mais malgré tout, les non-dits du législateur et du juge ne traduisent évidemment pas l'absence de ces symboles. Et il suffit d'aller voir derrière les textes. Hein. En réalité, si le législateur ne parle pas des symboles, les législateurs, en tant qu'homme politique amené à discuter la loi et à la voter, eh bien, en parlent considérablement. Les avocats n'ont que ces mots-là à la bouche, ainsi que les procureurs. Et on voit bien à quel point ces symboles frappent les imaginations. Et évidemment, cette performativité, je n'ai pas trouvé de mots plus adéquats pour décrire ce que j'essayais de montrer ici, apportent quelques crédits, sinon à la théorie de l'institution, au moins ils font toucher les limites, hein, d'un droit qui a du mal à voir dans les institutions des êtres vivants, autrement que par leur institution ou leur constitution ou leur destruction. Voilà, merci de votre attention.